Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 27 juin, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec
et Chérubin Dorsil.
Au sommaire ce soir, fin du 23e sommet de l'Union africaine à Malabo.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a promis une collaboration continue entre l'Union africaine et l'ONU.
RCA, la milice anti-Balaka se réorganise à Bangui.
C'est en présence de près de 300 chefs des miliciens venus de plusieurs régions du pays que la nouvelle structure dirigeante a été officiellement présentée.
L'Ukraine signe un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Mécontentement à Moscou.
Dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, la première phase de la compétition bouclée, c'est l'heure des bilans et des conséquences.
L'Algérie a arraché à la limite de la rupture une qualification historique au second tour contre la Russie. Cette victoire permet au continent d'avoir pour la première fois une double chance à l'entame de la deuxième partie de la compétition.
Avec 80% de ses représentants en huitième de finale, le continent américain nourrit de grands espoirs avec surtout un certain Brésil et l'Argentine de Lionel Messi.
D'abord, le journal. Rideau sur le sommet de l'Union africaine ce vendredi à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Les leaders africains ont appelé à davantage d'investissements dans l'agriculture. Ils ont également discuté des efforts concertés pour régler les conflits qui couvent à travers le continent, du Soudan du Sud à la République centrafricaine. Jean-Roger Bion.
La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a plaidé à l'ouverture du sommet pour un plus grand investissement public et privé afin d'améliorer la technologie dans l'agriculture africaine.
Notre agriculture, pour l'essentiel, est encore très traditionnelle et non moderne. Une priorité concrète est donc de moderniser et mécaniser.
Irungu Houghton, conseiller principal au sein du Forum pour la Révolution verte en Afrique, a souhaité une réévaluation des affectations budgétaires au profit de nouveaux investissements. Madame Dlamini-Zuma a également noté la menace que les conflits à travers l'Afrique font peser sur le développement agricole et la sécurité alimentaire, plaidant en cela pour un arrêt de la violence au Soudan du Sud. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a promis une collaboration continue entre l'Union africaine et l'ONU. L'Union africaine a également travaillé à la création d'une force de maintien de la paix de veille qui peut être déployée rapidement pour intervenir dans les conflits régionaux.
En République centrafricaine, alors que la tension persiste au centre du pays, la milice anti-Balaka se réorganise à Bangui. Ce mouvement vient de se doter d'une structure dirigeante. Elle a été officiellement présentée aujourd'hui aux miliciens. C'était au cours d'une assemblée générale tenue à l'initiative de l'association Mouda, une ONG qui œuvre pour la réconciliation. Le point avec Timothée Donangmaï.
C'est en présence de près de 300 chefs des miliciens venus de plusieurs régions du pays que la nouvelle structure dirigeante a été officiellement présentée. Composée de 14 membres, elle est pilotée par Patrice-Edouard Ngaïsona, secondé de Sébastien Wenezoui. Selon le nouveau coordonnateur général, cette réorganisation permettra de mieux lutter contre les dérapages et d'entamer des pourparlers avec les ex-Séléka en vue de rétablir la paix dans le pays.
Aujourd'hui, enfin, Anti-Balaka va être une entité indivisible. Nous avons pour mission de ramener la paix et sauver la patrie. Les responsables de la RPI sont à Bangui. Nous aurons une réunion avec eux pour essayer de mettre le plan d'action des Anti-Balaka pour la paix et la cohésion sociale. Mener de pourparlers avec nos frères centrafricains des ex-Séléka pour qu'il y ait un retour définitif de paix en République centrafricaine.
Notons que la présentation du nouveau bureau a été organisée par l'ONG centrafricaine Mouda. Elle s'est déroulée en présence de certaines personnalités civiles et militaires, nationales et internationales. Par ailleurs, le calme revient progressivement à Bambari. Au moins 70 policiers et gendarmes centrafricains y sont déployés depuis hier.
Meriam Yahya Ibrahim Ishag, la chrétienne soudanaise dont la condamnation à mort pour apostasie a été annulée par une cour d'appel, a reçu l'ordre de ne pas quitter le Soudan. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Mohamed Abdul Nabi est un avocat soudanais. Cette libération ne signifie pas qu'elle peut quitter le Soudan, car elle a été remise en liberté sous caution. Par conséquent, elle est encore sujette à des accusations et ne peut voyager tant que celles-ci n'auront pas été abandonnées. Autrement, un tribunal devra se prononcer là-dessus, dit l'avocat. Madame Ishag a quitté un poste de police de Khartoum hier et a immédiatement cherché refuge à l'ambassade des États-Unis en compagnie de son mari, qui est américain d'origine sous-soudanaise, et leurs deux enfants. Selon le porte-parole du département d'État, Mary Hoff, l'accusée a tous les documents requis pour se rendre aux États-Unis et il revient maintenant au gouvernement soudanais de lui accorder un sauf-conduit. Maryam Yaha Ibrahim Ishag a été condamnée à mort pour avoir refusé de renoncer à la religion chrétienne en faveur de l'islam. Son cas a soulevé un tollé et de multiples protestations à travers le monde.
Visite du président égyptien au Soudan, Abdel Fattah al-Sissi cherche à former une alliance contre l'extrémisme islamiste. Des entretiens avec le président Omar el-Béchir étaient prévus d'après l'agence Sunna, citée par l'AFP. Notons que des centaines de manifestants étaient dans les rues pour dénoncer la répression contre les frères musulmans en Égypte.
Bujumbura, dans le collimateur des Nations Unies, en visite au Burundi, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux droits de l'homme dénonce les violences politiques, les atteintes aux libertés et le harcèlement de la société civile.
Propagation de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone annonce l'octroi de près de 1,32 million d'euros à la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé recommande à la Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et à la Guinée-Bissau de se préparer à l'arrivée éventuelle de voyageurs infectés par le virus.
Concertation en Guinée entre le gouvernement, la commission électorale nationale indépendante et l'opposition. Zakaria Camara.
Au terme du premier jour de concertation, la mouvance présidentielle affiche plutôt un optimisme. Amadou Damarou Camara représente le RPG et ses alliés.
L'atmosphère est une bonne atmosphère de cordialité. Et nous, de la mouvance, nous avons toujours œuvré à ce que l'opposition, qui est aussi une opposition guinéenne, ceux qui la composent sont de la Guinée, qu'ils viennent à l'Assemblée pour qu'on continue le travail pour lequel le peuple de Guinée nous a mandaté.
Mais avant les débats de fond, Aboubakar Sylla, porte-parole de l'opposition, insiste sur quelques règles.
Nous avons posé d'entrée de jeu deux questions préjudicielles, à savoir l'ordre du jour et le cadre de dialogue. Nous avions demandé à ce que ce soit exactement les mêmes parties prenantes au dialogue de 2013, les parties signataires de l'accord du 3 juillet. Nous avons donc décidé qu'il y aurait autour de la table effectivement la mouvance présidentielle, l'opposition, la CENI, le gouvernement, les deux facilitateurs nationaux et puis la communauté internationale pourrait intervenir au cas où le dialogue pourrait s'avérer beaucoup plus laborieux que prévu.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine a signé ce vendredi un accord de libre-échange avec l'Union européenne à Bruxelles. Le président ukrainien Petro Poroshenko a dit que son pays a payé le prix le plus élevé pour atteindre cet objectif. Félix Yepassi-Zembrou.
Malgré l'opposition de Moscou, le président Poroshenko a qualifié la signature d'historique. Le président russe Vladimir Poutine a tenu à rappeler que c'est la controverse sur cet accord qui a conduit à l'éviction du président pro-russe Viktor Yanukovych au début de cette année. Cet accord contraint les Ukrainiens à un choix artificiel entre l'Europe et la Russie, selon le chef de l'État russe. Il a appelé à un cessez-le-feu durable en Ukraine comme une condition nécessaire à des pourparlers entre les autorités ukrainiennes et les séparatistes pro-russes. L'annexion de la péninsule de Crimée par Moscou a été également imputée à cet accord. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a dégénéré en affrontements entre soldats ukrainiens et séparatistes pro-russes de l'est. Les populations continuent de fuir cette région ukrainienne avec la fin du cessez-le-feu ce vendredi. L'Agence pour les réfugiés des Nations Unies a annoncé que près de 110 000 Ukrainiens ont fui vers la Russie, tandis que 54 000 autres ont été déplacés à l'intérieur du pays.
Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu aujourd'hui à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec Ahmad al-Jarba, leader de l'opposition modérée syrienne. Pour al-Jarba, la traversée de la frontière pratiquement ouverte entre la Syrie et l'Irak par les insurgés a créé la confusion à travers la région. Bagassi Koura.
Ahmad al-Jarba a demandé un effort plus musclé que jamais
dans la guerre contre le terrorisme ainsi qu'une plus grande assistance américaine et saoudienne pour chasser et les forces du président syrien Bachar al-Assad et celles de l'État islamique en Irak et au Levant. M. Kerry a pour sa part reconnu le rôle crucial des rebelles modérés dans la lutte transfrontalière contre les extrémistes sunnites de l'État islamique en Irak et au Levant. Le chef de la diplomatie américaine est dans la région pour encourager ses dirigeants à faire face à la menace djihadiste posée par les conflits en Syrie et en Irak. Hier, la Maison-Blanche a annoncé son intention de débloquer 500 millions de dollars pour entraîner les rebelles syriens modérés qui se battent contre les djihadistes. En Irak même, le très influent grand ayatollah Ali al-Sistani a sommé les leaders politiques du pays de s'entendre sur un nouveau premier ministre d'ici à mardi.
Explosion d'un gazoduc dans l'état d'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde. Les autorités font état de 14 morts et 15 blessés. Un incendie d'origine inconnue a détruit plusieurs entreprises et résidences privées dans le village de Nagaram, précise-t-on de même source.
En Afghanistan, le candidat à la présidence, Abdullah Abdullah, a pris la tête d'une manifestation ce vendredi dénonçant des fraudes présumées lors du second tour du scrutin le 14 juin. Claire Morin-Gibourg.
Brandissant le drapeau afghan et des portraits de leurs candidats, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans le centre de Kaboul. Le cri de ralliement de ces manifestants « Vive Abdullah, Dieu est le plus grand, mort aux fraudeurs ». C'est la première fois que le candidat a, lui-même, pris la tête de ce type de protestation depuis son retrait du processus électoral la semaine dernière. L'un de ses partisans, Abdul Ahadi, s'est confié à l'agence Reuters. Il dit que le président afghan Hamid Karzai et la communauté internationale doivent accepter la réalité et soutenir la nation afghane, et non un individu. Une référence à l'adversaire de M. Abdullah, l'ancien ministre des Finances, Ashraf Ghani.
We believe that the only way
Monsieur Ghani dit que la seule voie à suivre, c'est le respect total de la Constitution, de la loi électorale et des règlements établis. Des doutes planent sur la publication des premiers résultats annoncés pour le 2 juillet.
Voilà pour le journal. Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Place maintenant à notre partie magazine. Les micro-centrales hydroélectriques comme moyen de fournir de l'électricité au monde rural. Telle est l'idée que le Congo-Brazzaville veut mettre en œuvre à travers un projet lancé hier en partenariat avec le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial.
La RDC voisine, qui ambitionne de développer son immense complexe hydroélectrique d'Inga, mise elle aussi sur les micro-centrales. Elle a déjà en place un programme chargé de promouvoir ce secteur. Timothée Donangmaï a recueilli les explications du ministre de l'énergie de la RDC, Bruno Kaponji Kalala.
Il y a des endroits où l'énergie d'Inga ne va pas arriver. Là où l'énergie d'Inga n'arrive pas, nous construisons des centrales moyennes pour alimenter les chefs-lieux de provinces, de districts, des territoires et des collectivités. Alors pour les villages, c'est la même chose. Nous avons mis en place ce programme sur instruction du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de construire ces micro-centrales hydroélectriques. Mais là où il n'y a pas de rivière, de ressources exploitables, de sites exploitables, on va recourir à l'énergie solaire pour donner de l'électricité. Pour nous considérons l'électricité comme vraiment la base du développement rural, prenant en compte tous les aspects de la vie économique dans le milieu rural et de la vie sociale.
Est-ce à dire que chacun qui en a les moyens pourra acheter une micro-turbine et l'installer sur la petite rivière qui passe derrière sa maison?
C'est exactement ça. Et la loi que le président de la République venait de publier il y a quelques jours, c'est la loi 014, il a promulgué le 17 juin ici. Cette loi libéralise l'activité du secteur de l'électricité. Donc, dans tout le pays, partout, là où il y a une rivière ou bien où il n'y a pas de rivière, quelque chose, il y a possibilité de d'autres formes d'énergie solaire, biomasse et tout ça. Tout Congolais ou tout étranger peut s'installer et construire la microcentrale, produire et distribuer l'électricité. Ça a déjà commencé, hein, le programme a commencé, l'État a déjà réalisé quelques villes modernes, plutôt pilotes, mais les privés ont déjà commencé. Il y a déjà quelques promoteurs privés, publics et privés, qui ont commencé déjà ce programme-là.
Comment va s'opérer la régulation de ce secteur?
La loi prévoit la mise en place d'une agence nationale de régulation. Cette agence aura pour mission notamment de réguler la répartition des investissements sur l'ensemble du pays pour qu'on évite ce que nous avons connu dans le passé où tous les investissements dans le secteur étaient concentrés dans les grandes villes et dans les zones minières. Et l'agence de régulation va réguler la répartition des investissements publics et privés qui vont venir.
Bruno Kapanji Kalala, ministre de l'énergie de la République démocratique du Congo, nous parlait de Kinshasa.
Bonjour, c'est Nicolas Pinot. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
En Tunisie, le ministère de l'Éducation est mis sur la sellette après le démantèlement de réseaux de fraude au baccalauréat. Des députés réclament une commission d'enquête, voire l'audition du ministre Fatih Jaray.
Une affaire de tricherie Morgane qui a pris une nouvelle tournure hier avec la condamnation de 20 personnes, dont 3 élèves de terminale, à des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis pour fraude au dernier examen du bac. Jacques Aristide a contacté Lofty Tweety, directeur de la rédaction de Zitouna TV.
Oui, c'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre en Tunisie. Donc, ce sont des citoyens et des élèves qui se sont unis pour falsifier et transmettre des informations aux bacheliers. Ils ont utilisé des moyens technologiques avancés dans la mesure où les étudiants ont mis des écouteurs très, très petits et ils pouvaient donc transmettre par la voie portable des informations. Et ils ont été découverts grâce à la vigilance d'un agent de police qui a entendu les gens parler dans un café. Donc ils étaient en train de transmettre les informations aux bacheliers.
De tels réseaux de tricherie remettent-ils en question la valeur de ce diplôme?
Parce que c'est un réseau limité, ce n'est pas de grande envergure.
Des députés ont demandé une commission d'enquête et même l'audition du ministre de l'Éducation sur les fraudes au bac. Le ministre Fatih Jaray a-t-il réagi à ce sujet?
Il a précisé que l'affaire n'est pas généralisée et qu'elle n'a pas eu beaucoup d'impact sur le sérieux des épreuves du baccalauréat.
La surveillance des épreuves du bac va-t-elle être revue?
Ah, certainement. Les surveillances vont être plus approfondies et plus accrues. Et je pense qu'on parle même d'utilisation de moyens techniques et technologiques pour arrêter et contrecarrer toute fraude technologique, disons-le. Je pense que, et j'ai même entendu dire que les méthodes de surveillance vont changer, on l'espère bien, pour ceux qui ont préparé donc sérieusement leur baccalauréat, parce que ces fraudes sont négatives pour les gens qui ont travaillé et qui sont moyens, donc ils peuvent réussir, mais avec des fraudes pareilles, donc le moyen devient moins que passable.
Lofty Tweety est directeur de la rédaction à Zitouna TV. Il était joint à Tunis.
Ici aux États-Unis, la Cour suprême se prononce en faveur des adversaires républicains du président Barack Obama au Sénat dans leurs différends sur ses nominations par décret pendant que le Sénat était hors session. On fait le point avec Idrissa Seydoudia.
Toutes les nominations du chef de l'exécutif américain au haut poste de responsabilité de son administration doivent être entérinées par le Sénat. C'est ce que prévoit la Constitution. Mais que se passe-t-il quand la Chambre haute n'est pas en session ou est en vacances. Le président peut alors procéder à des nominations temporaires. Mais dans ce cas précis, la Cour suprême estime que le Sénat n'était pas officiellement en vacances. Dès lors, a décidé unanimement la Cour, les nominations faites par M. Obama au Bureau des relations du travail en 2012, sans confirmation du Sénat, étaient illégales. Le juge Stephen Breyer, qui a rédigé la décision de la Cour, a estimé qu'une pause parlementaire de moins de 10 jours est en principe trop courte pour pouvoir être qualifiée de vacances parlementaires et permettre ces nominations litigieuses. La Maison-Blanche a dit en réaction sa profonde déception. Il faut dire que, quand le président Obama a procédé à ces nominations temporaires, il se heurtait à de l'obstructionnisme côté républicain. Le Washington Post rappelle que les républicains avaient alors dit que tout allait être bloqué, amenant ainsi le président à forcer les choses. Les nominations temporaires ne peuvent pas durer plus de 2 ans, à moins que le Sénat ne confirme dans leur poste les intéressés. Et le Washington Post rappelle que tel a été même le cas pour 2 anciens membres de la Cour suprême, dont son ex-président Earl Warren. Donc, tous les présidents les ont utilisés, peu importe le parti auquel ils appartiennent. Notre confrère rapporte qu'Obama y a eu recours moins que ses prédécesseurs pendant leurs 2 mandats consécutifs, 32 contre 171 pour le républicain George W. Bush et 139 pour le démocrate Bill Clinton. Donc, ce droit présidentiel n'est pas remis en cause par la Cour suprême, mais seulement il faut savoir quand les vacances parlementaires sont formellement des vacances parlementaires. C'est ce qu'elle a rappelé au président Obama en donnant raison à ses adversaires républicains au Sénat, quel que soit le mobile politique de leur action en justice.
Le journal de la Coupe du Monde, tous les jours sur nos antennes avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chirubin, bonsoir à tous.
Alors, on va parler des 8e de finale qui commencent demain à Belo Horizonte, entre le Brésil et le Chili.
Oui, ça commence donc demain entre le pays organisateur et le Chili. Le Chili qui a déjà commencé à émettre, Chirubin, vous savez quoi, des doutes sur l'arbitrage qui sera en faveur du Brésil. Et les Brésiliens disent que il faut pas faire attention à ce genre de commentaires. Donc, comme vous l'avez dit, on connaît le tableau complet des huitièmes. Avant d'y revenir, il faut noter que l'Afrique a fait l'histoire hier en qualifiant 2 équipes en huitièmes de finale. D'abord, le Nigeria il y a 2 jours et puis hier, l'Algérie. L'Algérie s'est qualifiée en faisant un match nul, 1-0 contre la Russie. Les Fennec ont été menés depuis le début du match et c'est Slimani, Islam Slimani, qui a marqué en seconde mi-temps le précieux but de l'égalisation. Synonyme chirubin de qualification. Évidemment, à Alger, comme le raconte notre confrère Mohamed Zerougui, l'explosion de joie a été totale dans les rues. On écoute donc Mohamed Zerougui du journal Al Watan.
L'erreur contre la Belgique a été corrigée, c'est-à-dire on a maintenu le milieu de terrain. C'est ce qu'il a fait dès qu'il a vu qu'un attaquant s'est fatigué. Il l'a fait remplacer par Ibda, un milieu de terrain, et c'est comme ça qu'on a pu mener le jeu. Maintenant ici, dans la rue, c'est plus que la fête, c'est les pétards, les klaxons, la danse, c'est la samba. Ici en Algérie.
Oui, et ça se comprend hein, parce que c'est une victoire historique. Hein. L'Algérie ne s'est jamais qualifiée en 8e de finale.
Non, jamais. C'est la première fois qu'on passe en 8e de finale. Et je crois, d'après les calculs, on va affronter l'Allemagne. Il ne faut pas oublier 82. Les Allemands vont rentrer la tête pleine avec le souvenir de 82. Ils vont rentrer un peu stressés parce que les Algériens sont plus à l'aise. Maintenant, ils ont atteint leur objectif, alors que les Allemands vont être un peu stressés.
Voilà, les Algériens vont donc affronter l'équipe donc d'Allemagne. Ce sera lundi, Chirubin. Et votre pronostic?
Bon, je crois que l'Algérie peut jouer un très bon match face à l'Allemagne, mais je crois quand même que l'Allemagne va l'emporter.
Oui, qui est quand même l'équipe favorite hein, à côté du Brésil. L'Algérie a donc terminé 2e de ce groupe H derrière la Belgique qui a aujourd'hui des inquiétudes concernant 4 de ses défenseurs. Et vous savez que la Belgique doit jouer contre Team USA, ce sera mardi. Hein. Donc la Belgique a battu hier 1-0 la Corée du Sud. Du coup, lors des 8e de finale, Nigeria-France à 16h, ce sera lundi. Et Algérie-Allemagne à 20h, toujours lundi. Les Allemands, eux, ont souffert pour battre 1-0 les États-Unis, mais cette victoire leur assure la première place de ce groupe. Et le Portugal de Cristiano Ronaldo est venu à bout du Ghana, 2-1. Il aurait fallu une plus large victoire aux Ghanéens pour s'en sortir, d'où cette déception de quelques colères de quelques supporters nigériens.
Le match, ça a été très mauvais pour nous, mais on a essayé de faire de notre mieux. En plus, nous avons perdu Sully Muntari et Kevin Prince Boateng. Je dirais qu'ils ont bien joué. On espérait gagner. Malheureusement, ça n'a pas marché. On fait de notre mieux, mais pas de chance. Au sein des Black Stars, il y a des problèmes internes à régler avant la prochaine Coupe du Monde.
Voilà, the next World Cup to come, la prochaine édition du Mondial. Donc, le Ghana remet ses ambitions à demain après être éliminé. Ça, c'était la réaction des supporters ghanéens. On écoute maintenant le coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin Ngwe qui revient sur la qualification historique de deux équipes africaines en huitième.
We celebrate the best African football.
Bonjour. Une fois n'est pas coutume, le Ghana, en cette ultime journée de match de poule où son sort ne dépendait pas de lui, a offert au public sportif la surprise du chef. Le monde du football était jusque-là habitué aux jeux spectaculaires et offensifs de ces lutins bondissants, habiles à manier le ballon et à multiplier les facéties. Mais qui se serait attendu à découvrir ce jeudi à Brasilia un gardien de but en état de grâce, denrée rare au pays des Black Stars depuis la disparition de l'immense Robert Mensah au début des années 70. En effet, si le Ghana a perdu de justesse le match des éliminés du groupe G, son portier Daouda, par ses arrêts miracles à répétition, a découragé le buteur portugais Cristiano Ronaldo et qualifié les États-Unis par procuration. Le beau Cristiano s'en souviendra. Dans l'autre sortie africaine du jour, l'Algérie a arraché à la limite de la rupture une qualification historique au second tour contre la Russie. Cet exploit permet au continent d'avoir pour la première fois une double chance à l'entame de la deuxième partie de la compétition. Alors, rendez-vous à partir de lundi. À bientôt.
À bientôt, Jules. Jules Valentin Gouet, notre consultant qu'on retrouve lundi dans le journal de la Coupe du Monde. Alors, Chérubin, on connaît le tableau complet donc de ces huitièmes de finale. On aura, je vous le récapitule, Brésil-Chili dès demain.
Je parie sur le Brésil.
Oui, et Pays-Bas-Mexique.
Je crois que la Hollande va l'emporter.
Mais je pense que ça va être surtout le plus beau match de ces huitièmes de finale parce que les Mexicains, qui ont, vous vous rappelez, ils ont fait un match nul avec le pays hôte, le Brésil. Ils sont restés score vierge 0-0 et les Brésiliens étaient dessus. Mais le Mexique a une très belle équipe. Et bien sûr, les Pays-Bas avec Van Persie, vous vous rappelez de son plongeon là où il avait marqué un très beau but à l'ouverture du Mondial. Colombie-Uruguay.
Je parie qu'il n'y aura pas de morsure dans ce match.
Oui, parce que Luis Suarez a écopé quoi, de 9 matchs de suspension, 112 000, comme vous disiez hier. 12 000 dollars.
Et puis, il y a la grande surprise de ce mondial, Bagassikoura, une équipe de la CONCACAF qui est passée en tête de son groupe, le Costa Rica, qui affrontera la Grèce.
Oui, la Grèce, je pense que quand même, ce match est quand même à la portée des Costaricains, vu ce qu'on a pu voir lors de leur match de qualification. Ils ont très bien joué, sortir des grandes équipes d'Europe. Et puis on a France-Nigeria, le match qui nous intéresse surtout. Le Nigeria et la France ne se sont jamais croisés à ce niveau et les Français se demandent comment est-ce que ça va se dérouler. Et j'ai déjà commencé à voir aujourd'hui des Français qui pensent qu'ils vont remporter la Coupe du Monde.
Les autres matchs rapidement, Argentine-Suisse, Allemagne-Algérie et Belgique-États-Unis en huitième de finale. Merci Bagassi.
Merci, Chérubin. C'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde.
Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et Chérubin Dorsil. Un bon week-end, Morgane.
Ah, je vais bien profiter, c'est sûr.
Merci Tian Wang à la technique. Écrivez-nous sur Facebook.
invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros.
Ya